les podcasts de Radio Vatican.
Le 28e sommet des pays de la Ligue arabe s'est ouvert ce mercredi 29 mars dans une station de la Mer Morte en Jordanie. 21 pays y sont représentés et contrairement aux dernières années, de nombreux chefs d'État se sont déplacés, à commencer par le roi Salman d'Arabie Saoudite ou le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi. Parmi les sujets sur la table, la lutte contre le terrorisme ou encore le processus de paix israélo-palestinien. De nombreux responsables de la Ligue arabe demandent aussi une réforme de l'institution panarabe, depuis longtemps divisée et inefficace, mais pas sûr que ces déclarations de bonne intention suffisent, selon Didier Billon, le directeur adjoint de l'IRIS à Paris.
Aujourd'hui, une fois de plus, si je puis dire, nous sommes dans une situation où un certain nombre de dirigeants arabes appellent à des réformes, mais en réalité eux-mêmes n'ont aucune proposition véritable à faire. Pour une raison qui est très simple, c'est que désormais, les membres de la Ligue des États arabes suivent ce qu'ils considèrent être avant tout leurs intérêts nationaux, souvent contradictoires ou en concurrence avec les États voisins, et de ce fait, il y a une incapacité structurelle à véritablement mettre en œuvre une politique concertée et unifiée de l'ensemble des États. Deuxième facteur, qui est le corollaire du premier, c'est qu'il y a au sein de cette Ligue des États arabes une sorte de vacance des leaders, c'est-à-dire que les États qui jusqu'alors avaient pu influencer, avaient pu marquer de par leurs propositions, même si elles n'étaient pas toujours suivies des faits, mais leur présence, je pense notamment à Bagdad, je pense notamment à Damas, je pense notamment au Caire, eh bien ces trois capitales aujourd'hui, pour des raisons différentes, ne sont évidemment plus du tout en situation de peser en quoi que ce soit sur l'avenir de cette Ligue des États arabes. Alors évidemment, la nature et la politique ayant horreur du vide, l'Arabie Saoudite, pour sa part, essaye de s'affirmer comme le leader de cette Ligue des États arabes. Mais elle n'y parvient pas. Il y a deux ans, nous le savons, par exemple, elle a initié une guerre contre le Yémen qui s'avère un fiasco absolument complet. Et donc, elle a été incapable de s'affirmer politiquement, militairement dans la région, en plus contre un autre État arabe. Donc voilà, pour ces quelques raisons, je pense qu'en réalité, et on peut le regretter éventuellement, mais c'est ainsi, ce sommet de Amman ne changera pas substantiellement les données que je viens d'évoquer rapidement. Et je ne pense pas que dans la période qui s'ouvre devant nous, il y ait objectivement la possibilité pour qu'il y ait un sursaut et une rectification véritable qui donnerait alors à la Ligue des États arabes toute sa substance. Je pense qu'on n'est pas dans cette situation, qu'aujourd'hui la division prévaut plutôt que l'unité. C'est un constat de situation, encore une fois on peut le regretter, mais je crois que c'est la dure réalité des faits qui marque aujourd'hui les dynamiques au sein du monde arabe.
L'une des marques de ce sommet d'Amman est quand même une forme d'ouverture, puisque le secrétaire général de l'ONU, la haute représentante de l'Union européenne, Federica Mogherini, et même un représentant de Vladimir Poutine sont invités. La Ligue arabe veut montrer qu'elle ne fonctionne pas en vase clos. Est-ce que ces signaux sont plutôt positifs pour l'avenir, pour lui redonner peut-être une dynamique tout simplement dans les relations internationales?
Oui, évidemment, c'est très positif que les dirigeants arabes comprennent qu'il y a une nécessité non seulement de s'ouvrir au monde, mais ça c'est déjà une réalité qu'ils pratiquent, mais surtout qu'ils essaient de coordonner des décisions de tout ou partie du monde arabe avec d'autres instances internationales, l'ONU, l'Union européenne, etc., est une chose positive. Ceci étant, pour aujourd'hui, c'est plutôt une posture positive, j'en conviens parfaitement, qu'une réalité. On comprend fort bien, malheureusement, là aussi, que sur les grands dossiers qui affectent le monde arabe, et pour certains depuis des décennies, je pense évidemment au conflit israélo-palestinien, je pense à la crise syrienne, je pense à la guerre au Yémen, et on pourrait multiplier les exemples. On pourrait aussi parler du Sahara occidental, qui est un point de friction entre l'Algérie et le Maroc depuis des décennies. Bon, sur toutes ces questions, il n'y a pas unité du monde arabe. Donc, si l'ONU peut être utile pour parvenir à unifier les positions arabes, tant mieux. Mais aujourd'hui, l'ONU elle-même est très divisée sur les solutions à apporter, tant sur le dossier israélo-palestinien, que la crise syrienne, que le Yémen, que etc., etc. Donc, oui, il est positif d'avoir invité des structures extérieures à la Ligue des États arabes, mais en même temps, ne nous leurrons pas, ce n'est pas ça qui, en tant que tel, va débloquer une situation qui perdure depuis des décennies d'impuissance collective du monde arabe devant les défis qu'il assaille lui-même.
Mais est-ce qu'il y a une solution pour que, tout simplement, cette organisation pan-arabe soit efficace, puisse peser dans le concert des relations internationales ?
Je crois que la grande période de l'unité du monde arabe qui avait été portée par les partis bas syriens et irakiens, puis surtout qui avait été incarnée par Gamal Abdel Nasser, le dirigeant égyptien, sont désormais derrière nous. C'est-à-dire que ce mythe de l'unité du monde arabe est chose dépassée. Donc il est nécessaire d'en revenir au principe de réalité. Moi, je regarde souvent et je lis les déclarations de la Ligue des États arabes. C'est un langage, dirais-je, un peu suranné. On nous rappelle sans cesse à l'unité du monde arabe, etc. Mais ce n'est pas la réalité. Donc je pense que le principe de réalité doit revenir au centre de la méthode qui prévaut au fonctionnement de cette Ligue des États arabes. Je pense qu'au-delà des intérêts nationaux de chacun des membres constitutifs, qui est bien légitime d'ailleurs pour ma part, je pense qu'il n'est pas du tout répréhensible de défendre ses intérêts nationaux, mais puisse en même temps mettre sur la table de négociation un certain nombre de points, un certain nombre de dossiers quant au développement, quant au économique, j'entends, quant aux échanges culturels, quant éventuellement à des initiatives politiques, que ce soit des dossiers bien circonscrits et qu'à partir de là, des résolutions et surtout des initiatives communes puissent être mises en œuvre. Ça, c'est la méthode. C'est pas la peine de tenter de faire croire que la Ligue des États arabes est unie. Elle ne l'est pas. C'est encore une fois la réalité des faits. Donc il est nécessaire de procéder de façon méthodique, de prendre des dossiers bien ciblés, bien précis et à partir de là, que les dirigeants arabes tentent de trouver des positions communes. Je pense que c'est la méthode, elle est simple à énoncer, là encore une fois, peut-être plus compliquée à mettre en œuvre, mais qui devrait prévaloir. Et en tout cas, il n'y a rien de plus mortel politiquement que de prétendre ou de faire semblant ou de s'illusionner qu'il y a une unité possible sur l'ensemble des dossiers. Ça, c'est tourner le dos à la réalité. Et en politique, c'est de bien mauvaises méthodes.
Un entretien réalisé par Olivier Bonnel.